Un état de guerre incessant finit par engendrer ses propres conditions sociales, qui ont toujours été semblables à toutes les époques. Les gens se mettent en état d'alerte permanent afin de parer les attaques. Les autocrates exercent au grand jour leur pouvoir absolu. Tout ce qui est nouveau devient un dangereux territoire frontalier. Planète nouvelle, nouveau secteur économique à exploiter, idées ou inventions nouvelles, visiteurs étrangers. Tout prend un air suspect. Le féodalisme s'implante fermement, parfois déguisé en politburo ou son équivalent, mais toujours présent. La succession héréditaire suit les lignes du pouvoir. Le sang des dirigeants domine. Les vice-régents du ciel ou leurs homologues partagent le gâteau. Ils savent qu'ils doivent contrôler l'héritage ou bien laisser le pouvoir s'émietter lentement. Comprenez-vous à présent ce que c'est que la paix de l'étau? Les mémoires volées. Est-ce que le Bene Gesserit a été informé du nouveau programme? Demanda l'étau. Le cortège venait de s'engager dans la première dépression où la route commençait à faire des lacets avant d'aborder le pont sur le fleuve Idaho. Le soleil était au premier quartier de la matinée et quelques courtisans avaient déjà enlevé leurs manteaux. Idaho marchait au flanc gauche avec une petite troupe de truites. Son uniforme commençait à montrer quelques traces de poussière et de transpiration. Trotter ou marcher à la vitesse du chariot royal n'était pas une tâche de tout repos. Moneo trébucha et retrouva son équilibre en accélérant le pas.
« Les sœurs ont été informées, monseigneur, » répondit-il.
La modification de l'ordre des audiences n'avait pas été facile à organiser, mais Moneo avait pris l'habitude de ces changements de dernière heure, à l'époque des festivités, et il avait toujours quelques solutions de rechange.
« Elle réclame toujours une ambassade permanente sur Arrakis ?» demanda Leto.
« Oui, monseigneur. Je leur ai donné la réponse habituelle. »
Un simple nom suffisait. Elle ne devrait plus avoir besoin qu'on leur rappelle à quel point j'aborde leur présomption religieuse.
Oui, monseigneur.
Moneo se tenait juste à la distance prescrite du chariot royal. La présence du ver était très nette ce matin. Les signes physiques étaient particulièrement apparents aux yeux de Moneo. La chose était sans doute due à l'humidité de l'air. Presque toujours, cela faisait sortir le ver.
La religion mène inévitablement au despotisme rhétorique, déclara Leto. Avant le Bene Gesserit, les jésuites étaient passés maîtres en la matière.
Les jésuites, monseigneur?
Tu les as certainement rencontrés dans tes livres d'histoire.
Je ne sais pas, monseigneur. Quand ont-ils vécu?
Peu importe. On en apprend assez sur le despotisme rhétorique en étudiant le Bene Gesserit. Naturellement, les sœurs ne se font pas d'illusions en ce qui les concerne.
Ça va barder pour les révérendes mères, se dit Moneo. Il va leur faire des sermons. Elles ont horreur de ça. Voilà qui pourrait annoncer de sérieux ennuis.
Quelle a été leur réaction? Demanda Leto.
On m'a dit qu'elles étaient déçues, mais elles n'ont pas trop insisté.
Et Moneo songea, je ferais mieux de les préparer à de nouvelles désillusions. Il faudra aussi les tenir éloignées des délégations d'Ix et du Tleilax. Le majordome secoua la tête. Tout cela risquait de conduire à des manœuvres assez désagréables. Il faudrait avertir le Duncan.
Il conduit à des prophéties auto-exaucées et à la justification de toutes sortes d'obscénités, dit Leto.
Le despotisme rhétorique, monseigneur?
Oui. Il dissimule le mal derrière des cloisons qui sont imperméables à tous les arguments contre le mal.
Moneo surveillait d'un œil prudent le corps de Leto, notant la manière dont les mains s'agitaient presque erratiquement, les frémissements convulsifs des segments annelés.
« Que vais-je faire si le ver sort ici ?» se demanda-t-il, tandis que la sueur perlait sur son front.
Il se nourrit de significations délibérément perverties, afin de discréditer toute opposition, reprit Leto.
« À ce point, monseigneur ?»
Les jésuites appelaient cela
asseoir son pouvoir. Il en résulte une hypocrisie sans cesse trahie par le décalage entre les actes et leurs explications qui ne concordent jamais.
Il faudra que j'étudie attentivement cette question, monseigneur.
En dernière analyse, il règne en culpabilisant, car cette hypocrisie amène la chasse aux sorcières et la nécessité de trouver des boucs émissaires.
C'est terrible, monseigneur.
Le cortège s'engagea dans un virage où la roche avait été percée pour permettre d'apercevoir le pont dans le lointain.
Monio, fais-tu attention à ce que je dis ?
Naturellement, monseigneur.
Je suis en train de te décrire un instrument du pouvoir religieux de base.
Je sais, monseigneur.
Pourquoi as-tu si peur dans ce cas ?
L'évocation du pouvoir religieux me met toujours mal à l'aise, monseigneur.
Parce que les truites et toi, vous l'exercez en mon nom ?
Naturellement, monseigneur.
Le pouvoir de base est toujours dangereux, parce qu'il attire des gens qui sont vraiment insensés, des gens qui recherchent le pouvoir uniquement pour lui-même. Tu me comprends bien ?
Oui, monseigneur. C'est la raison pour laquelle vous donnez rarement suite aux sollicitations de ceux qui veulent faire partie de votre gouvernement.
Excellente réponse, Monio.
Je vous remercie, monseigneur.
Dans l'ombre de chaque religion se cache un Torquemada, continua Leto. Tu n'as jamais rencontré ce nom.
Je le sais,
car je l'ai fait disparaître de toutes les documentations.
Pourquoi cela, monseigneur ?
C'était une obscénité ambulante. Il transformait les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui en torches vivantes.
Monéo murmura d'une voix très basse. Comme ces historiens qui vous ont mis un jour en colère, monseigneur.
Tu remets mes actes en question, Monéo ?
Certainement pas, monseigneur.
Bon. Ces historiens sont morts sans souffrir. Pas un n'a senti les flammes. Torquemada, par contre, se plaisait à dédier à son dieu les hurlements de douleur de ses victimes brûlées vives.
Quelle horreur, monseigneur.
Le cortège arriva à un nouveau virage d'où l'on apercevait le pont. La distance, cependant, ne semblait pas avoir changé. Une fois de plus, Monéo étudia l'empereur dieu à la dérobée. Le ver était toujours proche, trop proche, mais pas plus que tout à l'heure. Le majordome ressentait avec effroi la menace de l'auguste présence qui pouvait se manifester et tuer de manière totalement imprévisible. Il frissonna. Quelle était donc la signification de cet étrange sermon ? Monéo n'ignorait pas que rares étaient ceux qui avaient eu l'occasion d'entendre l'empereur Dieu parler ainsi. C'était à la fois un privilège et un fardeau. C'était une partie du prix payé pour la paix de l'étau. L'une après l'autre, les générations défilaient au pas cadencé sous les dictates de cette paix. Seuls les plus hauts cercles de la citadelle connaissaient la totalité des rares infractions à cette paix, les incidents, à l'occasion desquels les truites s'étaient dépêchés en prévision de troubles. En prévision. Monéo regarda Leto, maintenant devenu silencieux. Les yeux de l'empereur Dieu étaient clos. Et son visage avait pris un air de méditation morose. Encore un signe du ver, un des pires. Monéo se mit à trembler. Leto prévoyait-il ses propres accès de violence déchaînée ? C'était la prévision de la violence qui répandait ces ondes de terreur et d'angoisse que connaissait parfois l'Empire. Leto savait exactement où il fallait poster des gardes pour étouffer dans l'œuf une révolte éphémère. Il le savait avant que les événements se déclenchent. Même en pensée, ce genre de préoccupation avait pour effet de dessécher la bouche de Monéo. Il y avait des jours, il en était absolument convaincu, où l'empereur Dieu était capable de lire dans la pensée de n'importe qui. Certes, Leto avait recours aux espions. De temps à autre, on pouvait voir quelques mystérieuses silhouettes, drapées des pieds à la tête dans une grande cape, se glisser après avoir franchi le barrage des truites dans l'escalier qui menait au sommet de la tour, ou bien celui qui descendait à la crypte. Des espions, sans aucun doute, mais Monéo avait dans l'idée qu'il ne servait qu'à confirmer ce que Leto savait déjà. Comme pour confirmer les angoisses de Monéo, Leto parla à ce moment-là.
« Ne cherche pas à me comprendre à toute force, Monéo. Laisse la compréhension venir d'elle-même. »
« J'essaierai, monseigneur. »
« N'essaie surtout pas. Dis-moi plutôt si tu as annoncé déjà qu'il n'y aura aucun changement dans les allocations d'épices. »«
Pas encore, monseigneur. » »«
Alors ne l'annonce pas. Je suis en train de changer d'avis. Tu te doutes, bien sûr, que les nouvelles offres de pots de vin ne vont pas manquer. »
Monéo soupira. Les sommes qu'on lui avait offertes par le passé atteignaient des sommets inimaginables. Leto, cependant, avait paru amusé par cette escalade.
« Fais-leur tirer la langue, » avait-il dit alors. « Vois jusqu'où ils sont capables d'aller. Fais comme si, finalement, tu pouvais te laisser corrompre. »
Le cortège venait de prendre un nouveau virage et le pont dans le lointain était redevenu visible. Leto demanda «
Est-ce que la maison des Corino t'a fait une proposition ?»«
Oui, monseigneur. »
« Connais-tu ce mythe selon lequel, un jour, la maison des Corino retrouvera sa splendeur passée ?»«
J'en ai entendu parler, monseigneur. » »«
Fais tuer Corino. Voilà une tâche pour le Duncan. Nous le mettrons ainsi à l'épreuve. »«
Sitôt, monseigneur. » »«
Il est bien connu que le mélange peut prolonger la vie humaine. Qu'on sache aussi qu'il peut l'abréger. »
Il en sera fait selon vos ordres, monseigneur.
Monéo savait ce que signifiait cette réponse. Il disait cela faute de pouvoir exprimer une objection qui lui tenait à cœur. Mais il savait aussi que le seigneur Leto comprenait ce qui se passait et s'en amusait, ce qui l'emplissait de rancœur.
Essaie de ne pas te montrer trop impatient avec moi, Monéo, murmura Leto.
Le majordome refoula son amertume. L'amertume était une source de danger. Les révoltés étaient amers. Les Duncan devenaient amers juste avant l'heure de leur mort.
Le temps n'a pas la même signification pour vous que pour moi, monseigneur. J'aimerais bien connaître cette signification.
Je sais que tu aimerais bien, mais tu ne la connaîtras pas.
Monéo essuya la rebuffade et demeura silencieux. Ses pensées se reportèrent sur les problèmes du mélange. Ce n'était pas souvent que le seigneur Leto daignait parler de l'épice. Et la plupart du temps, c'était pour fixer le montant des allocations ou pour les supprimer, pour répartir les récompenses ou pour envoyer ses truitesses chercher un magot nouvellement découvert. La plus grande réserve d'épices, Monéo le savait, se trouvait en un lieu connu de l'empereur-dieu seul. Au tout début de son service à la citadelle, Monéo, la tête enveloppée dans une cagoule, avait été conduit par le seigneur Leto lui-même jusqu'à cet endroit secret. Ils avaient emprunté un chemin compliqué, la plupart du temps souterrain, comme le majordome avait pu s'en rendre compte.
Quand il m'a permis d'ôter ma cagoule, nous étions sous la surface.
L'endroit avait empli Monéo de craintes respectueuses. C'était une gigantesque caverne taillée à même le roc, éclairée par des brilleurs d'un modèle antique orné d'arabesques de métal. Partout, on voyait d'énormes bacs à mélange dont le contenu émettait une lueur bleue phosphorescente qui contrastait avec la pénombre argentée de la caverne. Quant à l'odeur, une odeur âcre de cannelle, on ne pouvait pas s'y tromper. Non loin de là, on entendait l'eau couler goutte à goutte et les voix résonnaient contre la roche nue.
« Un jour, tout cela aura disparu, » avait dit le seigneur Leto.
Ému à cette idée, Monéo avait demandé
« Comment feront la guilde et le Bene Gesserit ?»«
Ils feront ce qu'ils font aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de violence. »
En contemplant les immenses réserves qui se trouvaient dans la caverne, Monéo n'avait pu que penser à tous les actes de violence que connaissait l'Empire en ce moment même. Assassinats sanglants, piraterie, espionnage, complot. L'empereur-dieu en étouffait la plus grande partie, mais ce qui subsistait était encore effrayant.
« Quelle tentation !» murmura Monéo.
« Quelle tentation, oui. »
« Il n'y aura jamais plus de mélange après cela, monseigneur. »
Un jour, je retournerai sous les sables. Je serai une source d'épices à ce moment-là. Vous, monseigneur, je produirai également quelque chose de tout aussi étonnant. De nouvelles truites des sables, des hybrides et aussi des reproducteurs prolifiques.
Tremblant à cette révélation, Monéo regardait dans l'ombre l'empereur Dieu qui parlait du miracle.
Les truites, poursuivit Leto, s'uniront pour former de grandes poches vivantes qui emprisonneront dans le sol l'eau de cette planète. Exactement comme au temps de Dune.
Toute l'eau, monseigneur?
Presque toute. D'ici 300 ans, le ver des sables régnera de nouveau ici. Et ce sera un ver d'une nouvelle espèce, tu peux en être certain.
Comment cela, monseigneur?
Il aura une conscience animale et une intelligence plus développée. L'épice sera plus dangereuse à chercher et encore bien plus dangereuse à conserver.
Monéo avait alors levé les yeux vers la voûte rocheuse de la caverne pour se transporter en imagination jusqu'à la surface.
Tout redeviendra désertique, monseigneur.
Les lits des fleuves se rempliront de sable. Les récoltes seront étouffées et détruites. Les arbres seront recouverts par de grandes dunes mouvantes. La mort des sables s'étendra partout jusqu'à ce que retentisse un signal au sein de cette désolation.
Quel signal, monseigneur?
Le signe annonciateur du cycle suivant, la venue du faiseur, le nouvel avènement de Shai-Hulud.
Ce sera vous, monseigneur?
Oui. Le grand ver des sables de Dune surgira à nouveau des profondeurs. Ce territoire redeviendra le domaine du ver et de l'épice.
Mais les gens, monseigneur, qu'adviendra-t-il de tout ce monde?
Un grand nombre périront. Les cultures et les végétaux comestibles se dessécheront. Privés de nourriture, le bétail disparaîtra.
Les hommes n'auront plus rien à manger, monseigneur.
La famine et la maladie ravageront le pays. Seuls les plus endurcis survivront. Et les plus brutaux.
Faut-il vraiment qu'il en soit ainsi, monseigneur?
Les solutions de rechange sont encore pires.
Quelles seraient ces solutions, monseigneur?
Tu les connaîtras le moment venu.
Cheminant aux côtés de l'empereur Dieu sur la route en lacet qui descendait vers le fleuve, Monéo se devait d'admettre qu'il avait eu depuis connaissance des autres maux. Ces révélations qu'il avait eues de sources sûres étaient accessibles, comme le savait Monéo, à la plupart des citoyens dociles de l'Empire. Elles se trouvaient sous une forme ésotérique dans l'histoire orale, les mythes, les récits égarés faits par quelques rares prophètes fous qui surgissaient sur une planète ou sur une autre pour rassembler une audience éphémère.
Mais moi, je sais ce que font les truitesses.
Il savait aussi qu'il existait certains êtres humains ignobles qui se gorgeaient de mets délicats tout en savourant le spectacle de leurs semblables sous la torture. Jusqu'à ce que les truitesses arrivent et que le spectacle soit noyé dans le sang.
J'ai bien aimé la manière dont ta fille m'observait, déclara Leto à ce moment-là. Elle se doutait si peu que j'étais au courant.
Monseigneur, je suis inquiet pour elle. Elle est mon sang, mon...
Le mien aussi, Monéo. Ne suis-je pas Atréide? Tu ferais mieux d'être inquiet pour toi-même.
Monéo jeta un regard craintif au corps de l'empereur Dieu. Les signes du ver étaient encore beaucoup trop proches. Il se tourna pour regarder le cortège derrière eux, puis la route au devant. La pente était devenue forte et les virages abrupts, taillés dans la muraille qui entourait le sarir.
Siona ne fait rien qui puisse m'offenser, Monéo.
Mais elle...
Monéo, tu as là, sous une écorce mystérieuse et fragile, l'un des plus grands secrets de la vie. Être étonné. Voir se produire quelque chose de nouveau. C'est là ce que je désire le plus.
Monseigneur, je...
Nouveau. N'est-ce pas là un mot qui irradie? Un mot merveilleux?
Puisque vous le dites, monseigneur.
Leto fut forcé à ce moment-là
de se rappeler « Monéo est ma créature, c'est moi qui l'ai créée. »
Ton enfant est presque sans prix pour moi, Monéo. Tu décris ses compagnons, mais il y en a peut-être un parmi eux dont elle tombera amoureuse.
Monéo regarda involontairement en arrière vers l'endroit où Duncan Idaho cheminait en compagnie des gardes. Le Duncan regardait devant lui d'un air furieux, comme s'il essayait de sonder chaque tournant de la route avant que le cortège s'y engage. Il n'aimait pas cet endroit entouré de falaises d'où partout une attaque pouvait surgir. Dès la nuit précédente, il avait envoyé là-haut quelques-unes de ses truitesses en reconnaissance, et Monéo savait que certaines devaient s'y trouver encore. Mais il était facile de tendre une embuscade au cortège avant qu'il ait atteint le pont, et les truitesses n'étaient pas assez nombreuses pour être disposées de tous les côtés à la fois.
Nous compterons sur les Fremen, avait dit Monéo pour rassurer le Duncan.
Les Fremen? Idaho n'aimait pas beaucoup ce qu'on lui avait dit sur ces Fremen de musée.
Ils pourront au moins donner l'alarme.
Vous les avez vus? Vous leur avez demandé de faire ça?
Naturellement.
Monéo n'avait pas osé profiter de cette occasion pour parler de Siona au Duncan. Il comptait le faire plus tard, mais l'empereur Dieu venait de dire une chose troublante. Y avait-il eu un changement dans ses plans? Le majordome reporta son attention sur l'empereur Dieu et murmura
« Un de ses compagnons, monseigneur ?»« Mais vous disiez que c'était le Duncan. »«
Je parlais de tomber amoureuse, pas de procréer. »
Monéo se mit à trembler. Il songeait à la manière dont son propre mariage avait été arrangé, dont on l'avait arraché.
Non, mieux vaut ne pas évoquer ces souvenirs-là.
Une certaine affection, un véritable amour même, était venu après. Mais dans les premiers temps...
Tu es encore dans les nuages, Monéo.
Pardonnez-moi, monseigneur, mais lorsque je vous entends parler d'amour...
Tu crois que je suis incapable d'avoir des sentiments?
Ce n'est pas du tout ça, monseigneur.
Tu crois que je n'ai pas de souvenirs d'amour et de procréation?
Le chariot fit un écart brusque vers Monéo, qui fut forcé de faire un bond pour l'éviter, terrorisé par le regard furieux que lui avait lancé l'empereur Dieu.
Monseigneur, je vous demande par...
Ce corps-ci n'a peut-être jamais connu de telle tendresse, mais les souvenirs sont tous à moi.
Monéo voyait s'amplifier les signes du ver dans le corps de l'empereur Dieu, et il se sentait pris au piège.
Je suis en danger. Nous sommes tous gravement en danger.
Il avait une conscience aiguë de tous les bruits qui l'entouraient. Le grincement des roues du chariot royal, les toussotements et les conversations à voix basse des courtisans, les pas sur la chaussée. Une odeur de cannelle s'exhalait de l'empereur Dieu. Entre les parois du défilé où il se trouvait, on ressentait encore dans l'air la froideur de la nuit, ainsi que la proximité du fleuve. Était-ce l'humidité qui faisait sortir le ver?
Écoute bien mes paroles, Monéo. Comme si ta vie en dépendait.
Oui, monseigneur,
murmura Monéo. Et il savait que son salut dépendait réellement de l'attention avec laquelle il allait non seulement écouter, mais observer la suite.
Une partie de moi demeure éternellement souterraine, sans accès à la pensée, fit-il. Mais cette partie réagit, elle fait des choses sans souci de logique ou de connaissance.
Monéo hocha la tête sans décoller son attention du visage de l'empereur Dieu. Était-ce maintenant que ses yeux allaient devenir vitreux?
Je suis obligé alors de me maintenir à l'écart, en simple spectateur, continua Leto. Et la réaction dont je te parlais pourrait très bien provoquer ta mort, par exemple, sans que le choix m'appartienne. Tu m'entends?
Je vous entends, monseigneur, murmura Monéo.
Il ne peut être question de choix dans une telle circonstance. On accepte et c'est tout. On accepte sans comprendre, on accepte sans savoir. Qu'as-tu à dire de ça?
L'inconnu me fait peur, monseigneur.
À moi, il ne me fait pas peur. Peux-tu m'expliquer ça?
Monéo s'attendait depuis un moment à la crise, et maintenant qu'elle venait, il était presque soulagé. Il savait que sa vie dépendait de la réponse qu'il allait donner.
Il regarda l'empereur Dieu dans les yeux, en réfléchissant à toute vitesse.
C'est à cause de tous vos souvenirs, monseigneur.
Oui.
La réponse avait donc été incomplète. Monéo lutta pour trouver les mots.
Vous voyez toutes les choses que nous savons. Vous les voyez telles qu'elles étaient avant. Inconnues. Une surprise pour vous. Une surprise, ce doit être simplement quelque chose de nouveau à connaître.
Tout en parlant, Monéo s'était rendu compte qu'il avait mis un point d'interrogation défensif à ce qui normalement aurait dû passer pour une affirmation hardie. Toutefois, l'empereur Dieu sourit.
« Pour ta sagesse, je t'accorde un bon point, Monéo. Que désires-tu ?»
Le soulagement subi ne fit qu'ouvrir la voie à une autre sorte d'angoisse.
Pourrais-je faire revenir Siona à la citadelle, monseigneur ?
Je serai obligé de la mettre à l'épreuve plus tôt que prévu.
Il faut à tout prix qu'elle soit séparée de ses compagnons.
Très bien, Monéo.
Monseigneur est magnanime.
Je suis égoïste.
L'empereur Dieu se détourna alors et demeura silencieux. Observant le corps annelé, Monéo constata que les signes du ver avaient sensiblement régressé. Les choses tournaient bien finalement. Mais il se souvint alors des Fremen et de leur requête, et ses angoisses le reprirent.
« J'ai commis une erreur. Il risque de le faire sortir à nouveau.
Pourquoi leur ai-je permis de présenter cette requête ?» Les Fremen attendaient sans doute un peu plus loin, massés de ce côté-ci du fleuve, leurs papiers ridicules à la main. Monéo continuait de marcher en silence, mais à chaque pas, ses appréhensions augmentaient.